Ils prennent plaisir à s'enlever les bouts de peau mortes, les croûtes, et il leur arrive même d'aller jusqu'au sang. Kalia lui dit, et pourquoi ça les démange? Rika lui dit, non, même pas. Ils ne sentent rien, ou quelquefois c'est comme une petite douleur. Mais ce qu'ils recherchent, ce n'est pas la douleur. Ils sont hypnotisés par cette peau morte. Et souvent, il faut qu'ils la touchent, qu'ils se l'arrachent. Ils aiment sentir cette chose sur leur bout de leurs doigts. Et quelquefois, ils gardent la peau arrachée, le bout de chair dans leurs mains pour la sentir du bout des doigts. Lorsqu'ils ont à penser à quelque chose, à se concentrer, ils le font beaucoup plus. Ça devient une manie. Et ne cherchent même pas à se soigner. D'ailleurs, vous avez vu, c'est vous qui avez demandé à ce qu'il se fasse soigner. Lui n'y pensait même pas, c'était devenu normal. Je dirais même quelque chose qui l'accompagne dans sa vie. Ces cas ne sont pas si rares, et des fois, lorsqu'ils sont soignés, ils se trouvent en manque tellement qu'ils étaient habitués à vivre avec cette chose, et cette chose les aidait à vivre, pour ainsi dire, puisqu'elle lui apportait un certain réconfort, une aide, comme la sucette pour le bébé. Et certains sont tellement en manque qu'ils se suicident. Galien lui dit, ce n'est pas possible, être en manque de sa peau morte. Rican lui dit, pas de sa peau morte, mais de la sensation qu'elle lui apportait, la rugosité. Elle s'en allait facilement et elle revenait constamment. C'était du plaisir sans fin. Galien lui dit, c'est de la bestialité. Rican lui dit, non, c'est une chose comme ça, naturelle. Nous éprouvons du plaisir grâce à nos sens. Et le plaisir peut se trouver dans beaucoup de choses. D'ailleurs, qu'est-ce que le plaisir? Une sensation de bien-être. Une sensation de bien-être peut être causée par n'importe quoi. L'être humain est tellement sensible qu'il ressent tellement de choses. Et chaque être humain est une particularité. Vous pouvez prendre du plaisir avec des choses qui peuvent dégoûter d'autres êtres. Mais êtes-vous pour autant un monstre? Parce que vos goûts ne sont pas les mêmes que celles de votre voisin. Et si votre voisin vous considère comme un monstre parce que vous n'avez pas le même goût que lui, vous aussi vous pouvez alors le considérer comme un monstre parce qu'il n'a pas le même goût que vous. Kaya lui demande, que faire? Il est impossible de former les gens pour avoir tous les mêmes goûts. Chaque être humain est unique. C'est ce qui fait la richesse de notre espèce et notre évolution pour pouvoir nous maintenir en vie. Galien lui dit, vous auriez pu me parler de tout ça avant d'opérer Guillaume. Rican lui dit, je suis médecin. Je ne peux pas refuser l'aide d'une personne qui me demande de le guérir. Galien lui dit, mais là, en le guérissant, vous risquez sa vie. Rican lui dit, j'ai parlé d'une façon générale. Je ne crois pas que Guillaume soit si indépendant que ça de sa maladie de peau. Il faudra qu'il s'accoutume d'être guéri et pour cela, je vais lui prescrire quelques calmants. Qui se distrait et chaque fois qu'il fait le geste de se gratter, vous lui en faites la réflexion gentiment. Qui s'occupe sans se fatiguer pour qu'il oublie sa manie et évite de lui parler de sa peau, sauf s'il cherche à se gratter. D'ailleurs, s'il cherche à se gratter, l'irritation risque d'apporter des maladies de peau presque semblables qui seraient naturelles et pas dues à la dégradation des cellules à cause de la mort, comme c'était le cas. Les maladies de peau sont dures à soigner, longues, à cause des les accoutumances qu'a le patient à vouloir se toucher, chercher à enlever la peau, à se gratter, à en avoir du plaisir. Les jours passent. Les insectes s'immunisent des produits insecticides que les plantes font elles-mêmes. Ces produits sont faits grâce à la bactérie qu'on leur a mise. D'autres insectes se transforment et deviennent plus dangereux, plus gros, plus forts. Ces insectes peuvent apporter des maladies infectieuses et les hommes ne savent pas quoi faire pour les éliminer et pour guérir les maladies. Il faudrait trouver des contrepoisons. Grâce à l'air, au pollen, aux abeilles et aux papillons, ces bactéries insecticides se sont déposées dans les plantes sauvages, ce qui les rend plus fortes et comme elles sont sauvages, elles sont encore plus robustes que les autres et ont tendance à prendre la place des plantes cultivées. Malheureusement, elles sont immunisées grâce à la bactérie des insecticides et on ne sait plus comment les tuer. Et si on les élimine, comme elles ont la même bactérie et ADN, on risque de tuer nos plantes cultivées et en même temps même de plus en tuer que les autres, plus tuer de plantes cultivées que des autres parce qu'elles sont plus fragiles. À cause de la bactérie et de son ADN, qui a la particularité de faire de l'insecticide, ce programme de génération en génération est d'une façon définitive. Que faire? Les chercheurs se disent qu'on aurait pu y faire, au lieu d'y faire de génération en génération, faire en sorte à ce que ce ne soit pas transmissible ou que la bactérie qu'on en a mise ait été programmée que pour le mâle et non mâle et femelle. Malheureusement, les choses ont été faites comme ça et l'on risque d'être envahi par des insectes ultra costauds, des maladies contagieuses à cause des insectes, des plantes sauvages incultivables. Cette invention risque d'être une véritable catastrophe naturelle. Il ne faut pas oublier, c'est que chaque nouvelle forme, transformation génétique ADN mise dans la nature est irréversible. Ça part dans l'air, ça se disperse, ça se transforme sans que l'homme y puisse quelque chose. Ça peut aussi transformer d'autres familles vivantes de muter, de faire des chimères, d'aller d'une plante à un insecte, à une bête, à l'air, au climat, de la bête à l'homme, et à chaque fois de créer des transformations. Il n'y a pas si longtemps, une bactérie qui produit du produit contre le gel dans les plantes, ce produit a été dans l'atmosphère, les nuages, et a empêché le nuage de faire à l'intérieur de l'eau, que l'eau se cristallise, et ce qui est indispensable pour que le nuage puisse faire de la pluie. Depuis ce temps, dans un coin d'Amérique, il ne pleut plus. Et ça, je vous assure que c'est vrai, c'est la réalité. Alors, pour les insectes, pour les bêtes, pour les hommes, les mutants envahissent le monde des hommes. Ils font peur aux gens. Ils sont de plus en plus nombreux grâce à leur développement ultra rapide. En quelques mois, ils deviennent des adolescents et des adultes. Ils sont couvés d'une façon artificielle en couveuse. On leur prend du sperme humain, on y ajoute l'ADN pour que l'on puisse y ajouter certaines spécificités, des ailes, des muscles, des membres, etc. Puis, on leur met aussi une intelligence adéquate et un caractère qui leur feront obéir d'une façon simple à leur maître, qu'ils reconnaîtront à leur voix. Un bip-bip à l'intérieur d'eux permettra de les suivre et de leur donner des ordres à distance. Ils sont programmés pour manger peu, dormir peu et avoir de besoins simples. Leur seul bonheur, c'est le travail. Ils ne peuvent pas avoir de rapport sexuel avec les humains, ni entre eux. Ils sont asexués pour éviter les ennuis. Ils ne se reproduisent pas entre eux. C'est nous qui les reproduisons artificiellement. On en fait des ouvriers, des surveillants, des gardiens, des policiers, des pilotes d'avion, de train, de car, de métro, etc. Des postiers, des secouristes, des pompiers. Ces chimères et mutants sont faits de telle sorte qu'ils sont spécialisés pour certains travaux et ne peuvent obéir qu'à leur chef, même en leur donnant des ordres à distance. Ces êtres bizarres qui peuvent être des moitiés hommes, moitiés bêtes, avec des ailes, des griffes, ou des nageoires, ou des yeux à 360 degrés, des oreilles à ultrasons, etc., etc. Car on peut tout avec l'ADN. Les humains ont peur à cause de leur physique, leur regard neutre, ne parlent pas ou disent des choses qu'on leur a dit de dire et rien d'autre. Ces gens ont un disque dans la tête. Donc, on ne peut pas discuter avec eux. Avec un policier mutant, on ne peut rien lui dire. La loi, c'est la loi. C'est tout. Tu désobéis, il flingue. Tu déchires ta contravention, il flingue. Tu parles mal à un policier, il flingue. Tu ne t'arrêtes pas à un feu rouge, il flingue. Tu voles, tu fais n'importe quoi, pas de discussion. Pour la police, comme pour le reste, c'est la même chose. C'est pour cela que les humains ont peur. Il n'y a pas de dialogue. Ils se sentent prisonniers de ces mutants chimères qui dirigent le monde. Certains pensent même qu'il faudrait les éliminer. Mais comment? Et puis, qui tire les commandes? En réalité, ce n'est pas les mutants chimères qui dirigent le monde, qui commandent. Car eux ne sont que des machines vivantes. Mais ceux qui tiennent les commandes sont ceux qui contrôle, dirige ces mutants chimères, c'est-à-dire le groupe Juntou. C'est du groupe Juntou qu'ils viennent, c'est du groupe Juntou qu'il y a la super centrale qui donne les ordres aux mutants chimères. Et qui sait où ils sont, ce qu'ils font, leur cerveau se trouve chez Juntou. Il peut leur faire faire tout ce qu'ils veulent, quand et comme ils veulent. Ce qui fait que petit à petit, le groupe Juntou s'empare de la France, la dirige et dirige de ses entreprises. Et après la France, le monde. Il suffit de vendre ces chimères et mutants au gouvernement de ces pays et à leurs industriels. Après le groupe, à le pays. Car il deviendra la police, l'armée, les postes de pilotage et l'industrie. Le tout piloté chez lui. Pour le moment, le central de lumière et du temps se trouve en France. Mais bientôt, il sera dans le nouveau continent et aura une centrale ultra-moderne et pourra même diriger la Terre entière. Les hommes du monde entier seront surveillés et dirigés par les mutants chimères qui, elles, seront dirigées par un centre qui leur dira tout ce qu'ils devront faire. Le groupe Juntou, grâce à l'ADN, est devenu le groupe le plus puissant du monde. Certains pays essayent de protester et disent que la France détient trop de pouvoir. Ils vont protester chez le pape. Mais comme le pape a été lui aussi programmé pour être du côté de Juntou, c'est-à-dire de la France, il les apaise et leur dit que la France ne cherche pas à leur nuire. Bien au contraire, elle cherche à aider les gens en leur apportant ces nouvelles technologies qui vont supprimer la famine, guérir des maladies, en soigner, prévenir, protéger, qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir et de la science que Dieu a donné aux hommes un cerveau pour qu'ils puissent en servir et les aider à mieux vivre en comprenant sa création. Il est fini le temps où la religion catholique était en guerre contre le savoir scientifique. Maintenant, il l'aide. Alors même, N'ayez pas peur et ayez confiance. La France est fille aînée de l'Église, ne l'oubliez pas. C'est le pays de tant de sainteté, etc., etc. Donc, ils ne peuvent avoir aucun secours du pape. En Afrique, il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus d'humilité. On ne comprend pas que le sida fasse autant de ravages. Surtout qu'on en a informé les gens, élevés en leur expliquant comment ils pouvaient s'en protéger. Et comment ils se propageaient. Par le sang, le sperme. On leur a donné des préservatifs. On a vu, d'après la vente des préservatifs, qu'ils se préservaient bien, que la vente était bonne. Et pourtant, le sida augmentait de plus en plus. Pour ce qui est du sang, les prises de sang, les opérations et toutes sortes de choses qui se font où il y a du sang, se fait dans les hôpitaux et c'est très suivi pour éviter les contagions. Et malgré tout, il y a de plus en plus de malades. De plus en plus de malades, l'immunité disparaît. Les médecins occidentaux qui travaillent en Afrique se réunissent pour savoir ce qu'il faudrait faire. Le sida qui augmente, malgré tous nos efforts, c'est impensable. Le sida revient en France, malgré nos efforts, que faire ? Le médecin dit... Il faut mettre en quarantaine l'Afrique pour empêcher cette poussée d'envahir le monde. Les médecins délibèrent et décident de mettre en quarantaine le continent africain. Un médecin va à l'ONU expliquer. Autrement, le monde va être contaminé. Les membres de l'ONU réfléchissent. La France dit, la quarantaine, oui, mais comment vont être nourris, soignés ces gens ? Le médecin lui dit, vous envoyez la nourriture et médicaments par avion et livrés en parachute, interdiction d'atterrir. Le président de l'ONU demande, et qui veut aider en approvisionnement de nourriture et de médicaments en Afrique. Aucun pays dit mot. L'Afrique, ça ne vaut plus rien. Seule la France accepte. Le groupe humanitaire Pontois accepte de le faire. Tout le monde applaudit. Le médecin demande à la France. C'est le groupe de Félicien Pontois ? Oui, un grand humanitaire. Et l'Afrique est mise en quarantaine. Interdiction d'y sortir ou d'y entrer. Plus d'avions, de navires ou autres. Seuls les avions qui surveilleront le continent africain seront pour amener des produits d'aliments et ce seront des avions Pontois. ce qui tue l'humanité se trouve dans les aliments pontois. Ce n'est pas le sida. Pontois est le feu vert de l'ONU pour éliminer la population du continent africain. Cette chose lui donne une grande publicité au groupe Pontois. Ses commandes et actions dans le monde entier augmentent. L'ordinateur Félicien Pontois devient de plus en plus riche et son fils aussi. Pontois devient la deuxième puissance mondiale après Genetou et la France la plus grande puissance du monde à cause d'eux. Malgré tout, le chômage, la peur restent. Il y a de plus en plus de SDF. Mais la bourse explose de richesses. Tous les jours de la semaine, Guillaume est seul dans son château avec les domestiques. L'infirmière continue à le voir tous les jours pour lui faire des piqûres de pénicilline et le masser. C'est une grande dame, sèche, brune, à lunettes dans les 40 ans. Elle a une blouse blanche. Guillaume la reçoit dans sa chambre.
Entrez. Bonjour monsieur.
Elle vient tous les matins à 10h. Elle lui dit : Je ne viens pas trop tôt parce que je sais que les hommes de distinction se lèvent tard. Il lui dit : Mais pas moi, je ne suis pas tellement de distinction. Je suis très simple. Je mène une vie cloîtrée. Elle lui dit :
Vous dites ceci, mais vous habitez dans un château.
Il n'est pas à moi, elle lui dit.
Allongez-vous au lieu de dire des bêtises.
Il a gardé son pyjama et s'allonge. Elle prépare la piqûre. Il retourne la manche droite et la lui fait.
Allez maintenant, enlevez votre pyjama que je vous masse.
Il enlève son pyjama, reste en slip. Elle le masse. Surtout parti. Qui a été greffée avec une pommade assouplissante. Elle lui soulève le slip et lui dit
« Avec de si jolies fesses comme ça, tout va bien. »
Puis, lui remet le slip en place. Elle le masse.
« La peau s'assouplit bien, un vrai bébé. Est-ce que vous avez mal ?»«
Non. » Tout va bien.
Tant mieux. Oh, on peut dire que vous êtes un privilégié, vous. L'ami que vous avez est l'homme d'affaires le plus puissant du monde. J'ai lu ça dans Capital Économique. Et qu'est-ce que vous faites, vous ?
Guillaume gêné lui dit :
Moi, rien.
Oh, c'est riche. Et ça se dit pas privilégié. Qu'est-ce que sont les autres alors ?
Guillaume lui dit. Je ne suis pas riche, je n'ai rien.
Et vous vivez dans un château ?
Oui, mais ce n'est pas à moi. Comme Louis XIV, qui n'avait rien à lui, que tout était à la nation, car le roi, en étant sacré, se dépossédait de tout. Il n'avait plus rien à lui. Elle lui dit.
Bien sûr, il n'a pas besoin d'avoir quelque chose en propre, puisqu'il peut disposer de tout comme bon lui semble.
Guillaume lui dit. Vous oubliez de dire avec l'assentiment de son peuple et de ses représentants.
Elle lui dit. Et vous ?
Il lui dit. Moi, c'est la même chose avec l'assentiment de mon ami.
Elle rit et lui dit. Ah, alors vous êtes comme le roi.
Oui, mais sans obligation de régner. Lorsqu'elle le masse, à certains endroits, cela le chatouille et il a envie de rire. Mais certains massages le gênent, car cela le chauffe un peu trop. Il se demande comment les masseurs peuvent exercer leur métier sans éprouver des désirs sexuels. Et si une personne leur plaît, comment font-ils ? Ce sont tout de même des êtres humains, et celui qui est massé, comment fait-il pour rester neutre ? Surtout si c'est un homme, avec son sexe, cela se voit de suite.
L'infirmière vient le voir deux fois par jour, une fois le matin à 10h et une autre fois le soir à 19h, pour qu'il puisse passer une nuit tranquille. Et comme cela, elle enlève les impuretés de la journée. Mais Guillaume peut se doucher autant qu'il le veut, il a un savon très doux pour cela. Une fois par mois, le médecin, c'est-à-dire Riquin, vient le voir faire une visite complète. Tout se passe bien. Après ses massages, ses soins, Guillaume passe son temps à écrire des chansons, lire, écouter de la musique et marcher un peu dans le parc. Toutes ses occupations l'empêchent de s'ennuyer, mais il a hâte de retrouver Galien. Parce que passer la semaine avec les domestiques et l'infirmière, c'est pas vraiment marrant car il n'y a pas beaucoup de discussions avec eux. Il fait toujours des rêves érotiques, mi-homme, mi-femme, et cela le force à se masturber. Et comme tous les jeunes gens orgueilleux n'aiment pas se masturber, ils trouvent cela dégoûtant et pas adulte, pas masculin. Il a l'impression, même qu'en le faisant, qu'il est trop hypnotisé par son sexe et qu'il risque de devenir pédé. Et cela l'énerve beaucoup et le dégoûte. Les poèmes pour ces chansons ont comme sujet la nature et ses fantasmes érotiques. La nature, c'est normal parce qu'il vit en pleine nature au milieu d'un beau parc. Malgré qu'il n'était pas très nature, il s'est mis à apprécier tous ces arbres, surtout vers la fin septembre où au milieu de feuilles vertes, il y en a qui commencent à jaunir et donnent un peu de douceur à ce vert si intense.
Le lac aussi est beau. Il aime s'asseoir à son bord, voir cette eau avec ses reflets d'argent, ses petites rides sur la surface. Le lac est tellement lumineux qu'il fait mal aux yeux. Il aime aussi marcher. Cela lui permet de se détendre et de pouvoir mieux écrire, d'avoir l'esprit dégagé. La solitude lui pèse, surtout la nuit, enfermé dans sa chambre et durant ses repas qu'il prend seul. Là, il pense à sa mère, à Paris. La nuit, la grande ville lui manque avec ses spectacles, la foule, les lumières. Mais, vivant plusieurs mois, presque solitaire dans un parc paradisiaque, avec ses habitudes, pourra-t-il vivre à Paris ou dans une grande ville au milieu de la foule, du bruit, lui qui vivait dans le silence, au milieu des contrastes de la trace de la société, lui qui vivait comme il voudrait. Et le temps passe, la vie, les gens changent. Il ne trouvera peut-être pas les choses pareilles et a peut-être sublimé les choses lorsqu'il va les retrouver, ne les reverra plus pareilles. Beaucoup de déceptions dans tout ça. Lorsqu'on est dans un paradis, on ne sait pas que l'on y est. On le sait que lorsqu'on n'est plus dans ce paradis. Sinon, compare pas, on ne peut pas savoir. Pour connaître son bonheur, son amour, il faut comparer. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.